Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Jérôme Charbonneau.
Bonjour, Éclairage vous propose aujourd'hui une émission préparée en partenariat avec la FIPF, Fédération internationale des professeurs de français, sur l'enseignement et l'apprentissage des langues en Asie, entre tradition et révolution, la tentation de l'Occident. Lointaine par sa distance géographique, lointaine par sa culture, à nos yeux d'occidentaux, l'Asie est un espace des plus exotiques, un espace pourtant très présent sur la scène internationale, en particulier avec ses deux monstres économiques que sont la Chine et le Japon. De plus en plus aussi, en Europe, on apprend les langues asiatiques, surtout le japonais, le chinois, mais aussi le coréen, le vietnamien, et on assiste à une présence de plus en plus forte de cette influence asiatique dans les formations en Europe, en particulier les formations universitaires. Alors qu'en est-il du côté asiatique? Y a-t-il aujourd'hui de la même façon une influence occidentale dans les systèmes éducatifs? Et quelles sont parmi les langues occidentales celles qui sont prisées par les asiatiques et pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui deux invités, Madame Marianne Bastide-Bruguière. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, grande spécialiste de la Chine moderne et contemporaine, et vous êtes également chercheur honoris causa de l'Académie des sciences sociales de Chine, où vous avez travaillé notamment sur l'histoire de la Chine et son système éducatif. À mes côtés, j'ai également Monsieur Miura Nobutaka. Monsieur Miura, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université de Chuo au Japon. Vous êtes interprète et traducteur et vous êtes également le président de la commission Asie-Pacifique au sein de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. Votre travail porte essentiellement sur des questions d'enseignement et d'apprentissage des langues, en particulier l'apprentissage du français. Alors, André Malraux, en 1926, écrivait « La tentation de l'Occident », une expression que vous reprenez, Monsieur Miura, dans un ouvrage que vous avez coécrit intitulé « La tentation de la France, la tentation du Japon ». Eh bien, je suis moi-même aujourd'hui tenté de reprendre cette expression pour vous demander quelles sont les origines de vos tentations, puisque aujourd'hui, à mes côtés, j'ai deux tentations, tentation de l'Orient et tentation de l'Occident. Alors, tentation de l'Orient avec vous, Madame Bastide-Bruguière, qu'est-ce qui vous a amené à avoir une telle passion pour la Chine?
Ça a commencé par la langue, et par la langue écrite chinoise. Quand j'étais assez jeune, puisque j'avais 10-11 ans, un étudiant chinois de ma mère m'a montré comment il enseignait la lecture et l'écriture à son fils qui avait alors 5 ans. Et il m'a expliqué sommairement, bien sûr, mais le fonctionnement des caractères chinois et de la graphie chinoise. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, et ce qu'il a raconté sur la Chine aussi, que j'ai décidé que plus tard, je ferai du chinois. Mais dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire du chinois au Langzhou, où on l'enseignait assez mal, je dois dire, à l'époque. Et puis j'ai continué, et ça a été... Et vraiment, je ne regrette pas. Au moment où je l'ai fait, on considérait que c'était une langue rare. C'était quand même parlé. Il y avait 700 millions de Chinois déjà à cette époque. Mais c'était une langue rare. Et on ne voyait pas à quoi ça pouvait servir. Mais je pense que c'était un bon choix, quand même.
Vous avez mis longtemps à apprendre le chinois?
Je ne le sais pas. Je ne le saurais jamais. Je sais un peu de chinois, c'est tout.
On apprend toujours.
Ouf, c'est absolument infini.
Et en ce qui vous concerne, Monsieur Miura, tentation de l'Occident, qu'est-ce qui vous a amené à un tel goût pour le français et pour notre pays?
Lorsque je suis entré dans l'université, l'université de Tokyo, j'ai dû choisir une seconde langue étrangère après l'anglais, et mon choix s'est porté presque automatiquement sur le français, parce que j'ai un souvenir des chansons françaises que j'ai écoutées, entendues, dans un petit café que ma grand-mère tenait dans une petite ville de province du nord de Japon. Et le souvenir m'est resté assez vivant, ce qui m'a porté mon choix sur le français. Donc, je n'avais pas d'autre motivation. Les années de mes études d'université correspondaient à la seconde moitié des années 60. Et c'était encore l'époque de Sartre. Et donc, j'étais émerveillé par ma lecture des écrits philosophiques ou littéraires ou théâtraux de Sartre pour découvrir cette méthode d'analyse très précise de tous les phénomènes d'histoire, de société, même de psychologie humaine. Et en plus, c'était la période de la guerre de Vietnam. Mm-hmm. Et j'étais révolté par cette guerre, disons, injuste. Donc, mon choix de français a été, disons, justifié, renforcé par mon sentiment révolté contre cette guerre, et donc par mon sentiment anti-américain, disons. Mm-hmm. Et parce que dans le Japon de l'après-guerre, c'est l'influence américaine, la civilisation américaine, qui a été prépondérante. Et j'étais déjà, je me sentais déjà un peu dissident par rapport à cette mainstream de la culture japonaise de l'après-guerre.
Alors, la Chine, ce n'est pas le Japon. Le Japon, ce n'est pas la Chine. Ça peut paraître évident de dire ça. Mais encore une fois, aux yeux d'Européens pour qui ces réalités sont assez lointaines, on a tendance à considérer les choses de façon peut-être un peu homogène. Et du coup, j'ai une double question à vous poser. Qu'est-ce qui fait que les Chinois et les Japonais peuvent se reconnaître dans une même ère culturelle, une même ère linguistique peut-être? Et qu'est-ce qui fait aussi que les uns et les autres ont leur spécificité culturelle? Alors peut-être faut-il d'abord préciser la notion d'Asie.
Oui, certainement, parce que là, il faut parler d'Asie orientale. L'Asie, il ne faut pas oublier qu'elle va du Japon jusqu'à la Turquie. Et c'est extrêmement vaste. Et l'Asie comporte plusieurs aires de grandes civilisations. Ne serait-ce que la civilisation indienne et le... Et puis toute la partie islamisée de l'Asie aussi, c'est tout à fait différent. Donc là, nous parlons de l'Asie orientale, c'est-à-dire pour être plus concret, de la Corée, de la Chine, du Japon, de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire toute l'Indochine, le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie aussi appartient à cette terre, le Siam, la Thaïlande. Et puis... l'Asie, alors l'insule Inde, l'Indonésie, les Philippines ne sont pas vraiment dans l'ère sinisée complètement, mais elles ont quand même de grandes colonies chinoises. Mm-hmm. Et puis elles ont subi, enfin en tout cas pour l'Indonésie, l'influence du bouddhisme, qui est un des facteurs d'unité ou de commun dans cette partie de l'Asie orientale.
D'accord, donc un critère religieux.
Le critère religieux n'est pas partout présent, mais le critère religieux est quand même l'influence du bouddhisme est très important. Et puis il y a l'influence exercée par la civilisation, la culture chinoise, la civilisation chinoise, et l'influence de la pensée confucienne. Qui a été considérable, l'influence de l'écriture chinoise aussi, mais M. Miura va en parler.
Alors, M. Miura, sur l'écriture chinoise et son influence sur cette zone qu'on essaye de délimiter dans un premier temps, quelle est-elle?
Bon, évidemment, la Chine, c'est une grande civilisation continentale aux yeux des Japonais qui vivent dans ce petit archipel. Et donc, on parle souvent de l'insularité de la culture japonaise. Mais les Japonais doivent énormément de choses à la civilisation chinoise, à commencer par le bouddhisme, le confucianisme et surtout le système d'écriture. Les idéogrammes chinois sont arrivés sur notre archipel dès le 5e siècle. Donc, notre dette civilisationnelle envers la Chine est immense.
D'accord. Donc, ici, nous avons des facteurs d'unité. Après, qu'est-ce qui fait la spécificité de chacun des pays? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est en Chine, on n'est pas au Japon, et que lorsqu'on est au Japon, On n'est pas en Chine, tout simplement. Madame Bruguière.
La Chine, d'abord, est immense.
Rapprochez-vous. Hein.
C'est un pays qui est pluriculturel, à la vérité. Multiculturel. Il est multiethnique, multilingue, multiculturel. Comme l'a souligné M. Miura, l'influence de l'océan, l'influence de la mer est beaucoup plus faible en Chine que partout ailleurs. C'est un pays continental, c'est vrai. Il y a de très grandes différences entre les pays chinois, même dans la partie de ce qu'on appelle la Chine des 18 provinces. Mm-hmm. La Chine proprement dite, celle où la majorité de la population est formée par les Han, mm-hmm. c'est-à-dire les Chinois au sens ethnique du terme.
Et on parle des pays chinois au pluriel, alors
Les Chinois aiment dire, enfin les Chinois Han, les Chinois d'ethnie chinoise aiment dire que la Chine est une. Les Tibétains ne sont pas toujours de cet avis, ni non plus les Ouïghours qui habitent mm-hmm. dans le Xinjiang, ce qu'on appelle quelquefois le Turkestan aussi. Donc les Mongols non plus ne sont pas tout à fait de cet avis. La vérité, c'est qu'il y a des pays très différents, il y a des langues différentes.
À l'intérieur même de la Chine.
Oui, l'écriture est commune, enfin l'écriture du chinois, parce que le Tibétain ne s'écrit pas avec des caractères chinois. Hein, le Mongol non plus, le Ouïghour non plus. Donc il y a pour les langues chinoises une communauté d'écriture qu'on peut, pour faire comprendre les choses, on peut dire par exemple les chiffres arabes, que ce soit en anglais, en français, s'écrivent de la même manière. Mais ils se prononcent différemment. En anglais, un, vous le dites one, ouais, et, quand vous voyez le signe. En Chine, vous avez un signe. Et selon que vous êtes du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, vous le prononcez de façon différente.
Mmh. D'accord. Alors, sur ces questions linguistiques, nous y reviendrons peut-être un petit peu plus tard. Et en ce qui concerne le Japon, est-ce qu'il y a une unité du Japon? Est-ce qu'on constate une telle diversité ou...
Comparé avec la Chine, on pourrait dire que le Japon est un pays, un peuple, beaucoup plus homogène, point de vue culturel et ethnique surtout. Quoique... Le Japon, au Japon, il y a des minorités,
hein,
équivalent des indigènes comme Ainu, et puis un peuple de Ryukyu Okinawa qui a été colonisé, disons dominé, et intégré dans l'espace de l'archipel japonais plus tard. Mais relativement parlant, c'est un peuple homogène, et étant donné la situation géographiquement isolée de l'archipel, tout en recevant de grandes influences de la Chine essentiellement, pendant des siècles et des siècles, le Japon a développé sa propre culture, son propre système, en matière de religion, en matière de langue, en matière de la vie quotidienne, et en matière de expression artistique aussi, expression tout à fait originale, même vis-à-vis de la civilisation chinoise, tout en recevant cette influence.
Une influence chinoise. Mmh. Alors, spécificité...
C'est-à-dire, le Japon n'a jamais été une colonie chinoise.
D'accord.
Ça, c'est très important. Mmh. Donc, on a assimilé, approprié les éléments très importants de la Chine qui sont appropriés au développement social et culturel du Japon.
Alors, spécificité culturelle, spécificité des peuples, mais aussi unité au niveau culturel dans l'espace d'Asie orientale. J'aimerais qu'on en vienne à la question de l'enseignement et pour en venir ensuite à la question des langues. Quelle est la spécificité pour chacun des pays des systèmes éducatifs? Et d'abord, est-ce qu'il y a une spécificité du système éducatif sur l'ensemble de cette zone asiatique que nous avons délimitée tout à l'heure avec vous, Madame Bruguière?
Aujourd'hui, la question est assez différente de ce qu'elle était, mettons, il y a deux siècles. Il y a deux siècles, le vietnamien s'écrivait encore avec des caractères chinois. Ce sont les missionnaires qui ont changé l'écriture vietnamienne et ont fait adopter les caractères latins. Mais il y a plus de deux siècles, ça s'écrivait en caractère chinois. Le coréen aussi s'écrivait principalement avec les caractères chinois. L'alphabet coréen était utilisé un peu comme dans le japonais aujourd'hui, mais beaucoup moins que... Tandis que maintenant, le coréen s'écrit en alphabet coréen. On n'utilise plus les caractères chinois. Donc, il y a deux siècles, le problème dans l'enseignement, c'était qu'il fallait apprendre la langue écrite. L'éducation, ça consistait à apprendre à écrire, à lire, à écrire. Donc, l'apprentissage de cette langue, avec ses idéogrammes, était... quelque chose d'énorme, beaucoup plus difficile que d'apprendre à lire.
Beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, mais oui, où on donne plus de place à la langue orale.
Par rapport à chez nous, par exemple, c'était beaucoup plus lourd.
D'accord.
Donc, le système d'éducation s'est ressenti de cette servitude, si je puis dire, de la langue, mais qui est en même temps une libération, parce que quand vous apprenez à lire et à écrire en chinois, vous apprenez beaucoup de choses en plus.
Alors, avec des influences donc, qui vont se ressentir sur le système éducatif actuel. Et pour en parler, peut-être allons-nous d'abord faire une petite pause. Oui. Vous écoutez Éclairage, une émission qui est préparée aujourd'hui en partenariat avec la FIPF, Fédération Internationale des Professeurs de Français. Et j'accueille pour en parler Madame Bastide Bruguière et Monsieur Murat.
Canal Académie.
Vous écoutez Éclairage, une émission préparée en collaboration avec la FIPF, Fédération Internationale des Professeurs de Français. Et nous parlons aujourd'hui de l'apprentissage des langues en Asie orientale, avec Madame Bastide Bruguière et Monsieur Murat. Alors, nous étions restés sur la spécificité des systèmes éducatifs et vous nous expliquiez, Madame Bruguière, à quel point, il y a 200 ans, l'écrit pouvait avoir une importance capitale en Chine.
Oui, et cette importance de l'écrit explique que se soit développé le système des examens auxquels les lettrés essayaient de se préparer et qui mettait l'accent sur l'apprentissage des classiques, d'un certain nombre de textes qu'on apprenait par cœur, et des histoires aussi, et surtout un corpus de littérature qui était le fondement à la fois moral et intellectuel de cette éducation. Donc, ce système d'éducation était assez formel. Il était peu orienté vers la pratique, parce que les enfants n'avaient pas le temps de faire beaucoup de choses pratiques.
Très morale et très littéraire.
Et très littéraire. Et c'est resté encore très prégnant dans l'enseignement chinois, même aujourd'hui. La manière dont on enseigne la langue chinoise en Chine... est très formelle encore.
Et donc il y a une véritable tradition éducative de l'enseignement en Chine.
Oui, c'est une tradition qui reste depuis très longtemps.
Et alors, si on en ressent encore les effets aujourd'hui, quelles peuvent être aujourd'hui les innovations qui ont pu être faites? Quels sont les changements qui, malgré tout, ont traversé cette tradition éducative en Chine?
C'est-à-dire qu'on a ajouté d'autres matières aux matières littéraires, mais ça depuis longtemps déjà.
Matières plus techniques, plus professionnelles.
Beaucoup de sciences, et puis... Tout ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle le savoir occidental, c'est-à-dire la géographie, l'histoire des pays étrangers, les langues étrangères aussi.
Alors sur cette influence de l'Occident, nous reparlerons peut-être tout à l'heure.
Peut-être qu'il faut que M. Miura
va nous parler du système japonais.
Traditionnel, parce que lui avait des spécificités.
Alors, quelles sont les spécificités justement de la tradition du système éducatif au Japon?
Avant la restauration de Meiji de 1868, même avant cette date-là, le système d'éducation était assez développé au Japon, et sous forme de terakoya, donc petites écoles tenues par un bonze, disons prêtre de temple bouddhiste, pour les enfants de toutes les classes, et essentiellement pour former les futurs samouraï, donc guerriers, mais administrateurs de chaque fief. Il y avait ce qu'on appelle hanko, c'est-à-dire école de fief, pour former des cadres dirigeants.
Okay. Cadre dirigeant cadre militaire, donc.
Oui.
Essentiellement, les gens qui étaient éduqués étaient également destinés à servir l'armée.
Oui. Donc, il y a deux niveaux de système d'enseignement. Et dans les petites écoles, il était important d'apprendre à lire, écrire et calculer. Hein. Et dans les écoles de fief, pour former les cadres guerriers administratifs, etc., c'était essentiellement l'étude des classiques chinoises, qui constituait le noyau de programmes d'enseignement, donc les leçons de confucianisme. L'étude confucianiste était très importante.
D'accord, les classiques chinois, donc on retombe sur cette homogénéité dont on parlait tout à l'heure.
Et cette tradition d'études chinoises a continué de façon très vivante jusqu'à la première moitié de l'époque de Meiji, c'est-à-dire après la restauration de Meiji. Oui.
Est-ce que cette tradition éducative se ressent encore aujourd'hui dans l'enseignement au Japon? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on sait...
Évidemment, il y a une grande révolution de système éducatif survenue au début de l'ère Meiji, donc après la restauration. Donc, le Japon s'est lancé dans la voie de modernisation pour rattraper le retard civilisationnel vis-à-vis de l'Occident. Et le gouvernement de Meiji a mis beaucoup de budget, beaucoup d'énergie pour mettre en place un système scolaire performant. Donc, le premier système scolaire a été mis en place dès 1872, donc quelques années après la restauration, donc même avant la réforme des lois à Jules Ferry.
D'accord.
Donc, l'enseignement primaire a été généralisé assez tôt, et donc pour bâtir une société égalitaire, c'est-à-dire on ne pouvait pas maintenir ce système de classes sociales hiérarchisées à quatre classes qui étaient en vigueur après la Restauration, donc guerriers, paysans, commerçants et artisans. Donc il n'y avait pas de mobilité sociale avant. Mais pour moderniser rapidement le pays, il fallait détruire cette... ces privilèges de éducation réservés à une petite minorité. Donc, l'enseignement a été généralisé pour recruter des meilleurs enfants de la nation, pour les placer dans l'administration, dans l'armée,
Enseignement généralisé qui est encore en œuvre aujourd'hui.
Oui, donc l'éducation a joué un rôle très important dans la modernisation du Japon.
Vous parlez de retard civilisationnel par rapport à l'Occident. Est-ce qu'on observe à un moment de l'histoire de la Chine un retard civilisationnel, tel que le dit M. Miura?
Les Chinois ont mis beaucoup plus de temps que les Japonais à le reconnaître.
Parce que c'était une grande civilisation.
Parce que il a fallu qu'il soit à la vérité, il a fallu qu'il soit vaincu par les Japonais en 1894 pour qu'ils admettent que vaincu par ce petit nain qu'était le Japon, parce que c'est ainsi qu'ils appelaient les Japonais, qui continuent à les appeler d'ailleurs. Il fallait admettre que la Chine n'avait pas fait ce qu'elle devait.
Alors et, du coup, la Chine s'est modernisée après en ça, s'inspirant du Japon.
Elle s'est modernisée en s'inspirant du Japon. Mais en réalité, depuis les années 1860, parce que la Chine avait été durement agressée par les Anglais, par les Français, et par les Russes aussi, elle avait commencé à introduire certains changements dans son système d'éducation par créer quelques écoles où on enseignait les langues étrangères et les sciences étrangères. Mais c'était tout à fait marginal par rapport au système principal. Et dans le système principal, contrairement à ce qui se passait au Japon, l'éducation populaire était assez peu répandue. Elle avait été assez largement répandue au XVIIIe siècle, quand la Chine était relativement prospère. Et là, il y avait des écoles de village où une partie relativement importante, probablement 30 à 40% des hommes, pas des femmes, hein, les femmes n'allaient pas à l'école, n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Non, les femmes étaient quelquefois instruites dans la famille, dans les familles lettrées, mais pas toujours. Mais ça arrivait que les pères soient des bons pères qui adorent leurs filles et qui apprennent la poésie à leurs filles. Mais normalement, les filles n'étaient pas instruites. Mais les garçons, au XVIIIe siècle, il y avait bien 30-40% de la population qui savait lire et écrire, les garçons. Et puis, à cause de l'augmentation de la population, de l'appauvrissement de la Chine, de toutes sortes de catastrophes naturelles aussi, et de grandes insurrections populaires qui ont ruiné le pays au milieu du XIXe siècle, le taux d'alphabétisation, on peut pas dire alphabétisation parce qu'il n'y a pas d'alphabet, mais enfin, le taux de lecture, de capacité de lecture et d'écriture avait beaucoup diminué. Et à la fin du XIXe, enfin avant que n'interviennent les réformes d'éducation, il y avait probablement 15% de la population masculine qui pouvait lire et écrire. Il y avait donc encore des écoles de village où peu de gens pouvaient envoyer leurs enfants. Et puis, il y avait une éducation alors supérieure pour les lettrés ou pour des gens extrêmement brillants, des familles humbles et pour lesquelles le clan se cotisait pour payer des études. Quand on voyait un garçon très, très brillant, la famille, enfin toute la tribu, si je puis dire, se cotisait pour essayer de lui payer des études, pour qu'il devienne mandarin et qu'il rapporte des profits à l'ensemble de la tribu.
D'accord.
Mais c'était la diffusion de l'éducation n'était pas du tout la même et elle a été beaucoup plus lente en Chine qu'au Japon. La diffusion très large de la généralisation de l'instruction primaire, elle ne date que des années 1960 en Chine. Et maintenant, on arrive à 9 ans d'éducation.
D'accord. Donc une évolution assez tardive du système éducatif chinois qui a reçu des influences occidentales, notamment. Ce dont nous parlerons après une petite pause. Je vous rappelle que vous écoutez Éclairage, une émission aujourd'hui sur les langues en Asie orientale et l'enseignement des langues qui vous est proposée par Canal Academy en partenariat avec la FIPF, Fédération Internationale des Professeurs de Français.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez. On retrouve Jérôme Charbonneau.
Et aujourd'hui, nous parlons des langues en Asie orientale et de leur enseignement avec Madame Bastide Bruguière et Monsieur Murat. Alors, nous étions restés, Madame Bastide Bruguière, sur l'évolution du système éducatif en Chine et sa généralisation. Alors, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'est de savoir, est-ce qu'on a ressenti à un moment donné dans le système éducatif chinois une influence occidentale, et est-ce que c'est quelque chose que l'on ressent encore dans le système éducatif chinois ?
Oui, la réforme majeure du système éducatif chinois est intervenue après la guerre des boxeurs. En 1902, le gouvernement impérial, parce que c'était encore l'Empire en Chine à ce moment-là, a décidé de créer un système d'éducation moderne. Et à ce moment-là, il s'est modelé sur le Japon, parce que le Japon avait réussi son décollage, avait vaincu la Chine. C'était un pays asiatique. Et donc, le Japon paraissait le meilleur modèle. Le Japon lui-même s'était inspiré du système allemand. Donc, en réalité, c'est un système copié de l'Europe, pas de copier de l'Amérique, qui s'est instauré en Chine, et l'influence japonaise, ce système donc germano-japonais, et a maintenu son influence essentielle en Chine jusqu'au début des années 1920. Au début des années 1920, l'antagonisme entre la Chine et le Japon s'exacerbait, et c'est l'influence américaine qui, à ce moment-là, paraissait plus remarquable aux intellectuels chinois. Et il y a eu des réformes du système éducatif chinois qui, dans les années 1920, ont plutôt penché vers le système américain. Cela a duré jusqu'en 1949. Et quand les communistes ont pris le pouvoir en 1949, ils ont adopté, eux, le système soviétique. Le système soviétique était copié sur le système allemand. Donc on est revenu au système allemand. Et puis, depuis 1978, avec les réformes, la politique de réforme et d'ouverture instaurée par Deng Xiaoping, on a résolument chassé le modèle soviétique, le vieux système allemand de l'Empire prussien, et on a regardé du côté de l'Amérique, et c'est plutôt l'Amérique qui inspire maintenant le système chinois, tout cela poussé par l'aide reçue de la Banque mondiale et des institutions internationales. Mais enfin, c'est pas quand même le système américain, hein. Mais l'influence, enfin, le modèle, ce qu'on regarde comme le critère remarquable, c'est quand même le système américain.
Le système américain. L'influence américaine au Japon, Monsieur Miura, elle est venue beaucoup plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Et comme nous le disait donc Madame Bastide Bruguière, c'est l'influence européenne et en particulier allemande qui a primé. Pourquoi l'influence allemande?
Oui. Bon, pour revenir un peu à l'époque avant la Restauration, disons, les nouvelles de la guerre de l'opium ont été un événement tout à fait marquant pour les dirigeants japonais. C'est pour ne pas subir le même sort que les Chinois que le Japon a décidé de s'ouvrir vis-à-vis de l'Occident. Donc, la guerre de l'opium, c'est 1940, et l'ouverture du Japon date de 1954. Et à partir de là, donc, le Japon s'est lancé beaucoup plus énergiquement que la Chine, tout à fait inconscient de retard civilisationnel que le Japon avait enregistré à ce moment-là vis-à-vis de l'Occident, pour moderniser, industrialiser, civiliser le pays sur le modèle occidental. Hein? Et quand je dis modèle occidental, il y a plusieurs modèles. Angleterre, France, Allemagne, les États-Unis, et le Japon n'a été dominé par aucune puissance occidentale. Donc, les Japonais ont pu étudier de façon comparatiste différents modèles, différents systèmes des pays occidentaux, pour prendre les meilleurs morceaux, meilleures choses de chaque système allemand, français, etc. etc. Et finalement, le modèle allemand était plus, comment dirais-je, approprié, étant donné le niveau de développement industriel et militaire de Japon, et peut-être étant donné la similitude de la mentalité de système social ou sociétal qui rapprochait l'Allemagne de Japon.
Une similitude de
c'est-à-dire de mentalité. C'est un régime autocratique qui s'est instauré au Japon. Donc c'est un régime pas totalitaire, mais avec le système autoritaire. Qui a fait la modernisation par le haut, si vous voulez. par beaucoup d'injections par les entreprises nationales, par c'est l'interventionnisme un peu comparable à la France, mais l'interventionnisme de l'État que le Japon a pu se moderniser.
Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose aussi qui relevait du rapport assez fort, tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, au Japon entre l'éducation et l'armée?
Oui, oui. Et c'est tout, comment dirais-je, la première constitution moderne, la constitution de Meiji a été promulguée en 1889, et l'année suivante, il y a rescrit de l'empereur sur l'éducation, qui définit le fondement de l'esprit avec lequel l'éducation devait se faire. Hein. Donc, toujours le régime politique avec le système de l'empereur et l'esprit qui domine dans les milieux de l'éducation vont de pair toujours. Et là-dessus, il y a évidemment la culture de patriotisme, nationalisme et culte de l'empereur.
Très forte au Japon.
Très forte au Japon pour former des soldats, hein, pour former des ouvriers et des soldats.
Alors, monsieur Mira, il y a aussi un élément supplémentaire. C'est la guerre franco-prussienne de 1870, où la Prusse, enfin, l'Allemagne, a vaincu la France. On a dit à ce moment-là, et les Allemands l'ont répété, et les Français l'ont reconnu, que c'était parce que la population allemande était beaucoup plus instruite que la population française. Il n'y avait pas encore de généralisation de l'instruction en France. Et cette idée-là a été extrêmement forte et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles le Japon a choisi le modèle allemand d'éducation.
Alors, on peut supposer qu'avec cette inspiration européenne, tant du côté du Japon, donc, qui s'inspire de l'Allemagne, que finalement du côté de la Chine, qui s'inspire aussi du modèle européen à travers le Japon, il y a eu une influence aussi linguistique et que ça a pu déclencher des innovations au niveau de l'enseignement des langues. Alors, quelle a été cette ouverture à l'enseignement des langues en Chine?
Mais ça a été extraordinaire parce que dans le système d'enseignement de 1902, il y avait au niveau de ce qui est notre collège, hein, quand même 5 heures d'enseignement des langues étrangères et dans ce qui correspond à notre lycée, enseignement deuxième cycle du secondaire, ils avaient 8 heures de langue étrangère. Alors, à la vérité, ça n'a pas été appliqué dans la plupart des écoles parce qu'ils n'avaient pas les professeurs, mais dans quelques écoles, c'était appliqué. Donc, c'était une injection de langue étrangère beaucoup plus forte que chez nous. Ça a décliné ensuite en Chine. C'est resté, la proportion de langue étrangère, théoriquement, dans les programmes, théoriquement, est restée très forte jusqu'en 1949. Et puis ensuite, quand le gouvernement communiste est arrivé, il a diminué considérablement la part des langues étrangères. Et d'ailleurs, auparavant, les Chinois apprenaient surtout l'anglais et le japonais. Et à partir de 1949, ils ont appris le russe. Principalement, l'anglais étant la deuxième langue. Le japonais ayant beaucoup diminué, sauf dans la partie du nord-est, parce qu'il y avait des gens qui parlaient japonais, donc c'était facile de trouver des professeurs. Et le français, alors, quasiment
inexistant.
Dans le secondaire, c'était quasiment inexistant. Et puis, en 1962, le gouvernement communiste a remonté l'importance des langues étrangères en diminuant le russe, parce qu'ils étaient brouillés avec les soviétiques, et en injectant de l'anglais. Mais là aussi, parce qu'il manquait de professeurs, ça n'a pas été vraiment appliqué. Puis pendant la révolution culturelle, à partir de 1966, on a supprimé toutes les langues étrangères parce que c'était de l'asservissement à l'étranger, jusqu'en 1978 pratiquement.
Ça répond à une politique de fermeture.
Ah oui, non, mais là, c'est complet. Et puis à partir de 1978, alors on a réinjecté à assez forte dose, de nouveau à peu près comme au début du siècle, en principe 4-5 heures au collège et puis jusqu'à 8 heures dans le deuxième cycle du secondaire, avec de l'anglais majoritairement. Et maintenant, on a diminué la proportion. Il n'y a plus que 4 heures à peu près dans le premier cycle et 4-5 heures aussi dans le second cycle. Mais on a instauré une langue étrangère, pas dans toutes les écoles primaires, mais quand même dans beaucoup d'écoles primaires. Moi, j'ai vu des écoles primaires au centre de la Chine destinées à des enfants de migrants, c'est-à-dire vraiment les gens les plus pauvres dans la population, où les enfants apprenaient l'anglais et ils l'apprenaient très bien.
Très bien.
Ah oui, beaucoup mieux que chez nous.
Alors, pour le Japon, quelle a été l'évolution de l'enseignement des langues sous le coup de cette influence occidentale dont on parlait tout à l'heure?
Bon, alors, d'abord, il faut savoir que pendant plus de 2 siècles de fermeture complète de Japon, de début 17e jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était les études hollandaises qui étaient assez développées au Japon. Donc, la langue néerlandaise était le seul vecteur par lequel le savoir occidental est transmis au Japon.
Alors, on parlait des Allemands tout à l'heure. Pourquoi cet engouement pour le néerlandais au Japon?
Attendez. Bon, donc, se débarrasser de l'influence civilisationnelle de l'Occident, surtout pour éviter le prosélytisme de christianisme qui était très fort à la seconde moitié du XVIe siècle. Le shogun, les premiers shoguns de Tokugawa ont interdit le prosélytisme d'abord, et puis ils ont décidé de fermer le pays vis-à-vis, tout le commerce, tous les échanges avec l'Occident, sauf avec les Hollandais, parce que les Hollandais n'affichaient pas leur volonté de prosélytisme, et puis au début du XVIIe, les Pays-Bas étaient une nation quand même très prospère en termes de commerce international. Donc, on a gardé les Hollandais et en les assignant à une petite île de Nagasaki pour continuer le commerce. Et donc, tout le savoir occidental en médecine ou en géographie, etc., même en mathématiques, s'était transmis au Japon via le néerlandais. Okay? Mais évidemment, au moment de l'ouverture du pays, les Japonais ont constaté que ce n'est plus le néerlandais langue internationale, c'est l'anglais, suivi de peut-être français et de l'allemand. Donc, à l'époque de Meiji, on étudiait essentiellement 3 langues. Anglais majoritairement, mais sans négliger français et allemand. Okay? Et donc, en matière d'études linguistiques, le Japon avait une sorte de politique plurilinguiste. Oui. Et après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, c'est l'influence américaine. Parce que on a connu 7 ans d'occupation américaine qui a transformé le Japon complètement dans un pays, disons, démocratique à l'image américaine.
Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas provoqué de réticence des Japonais par rapport à l'anglais, mais au contraire, presque une sorte d'acculturation. C'est-à-dire une influence très très forte, finalement, des Américains et de la langue anglaise.
Oui. Comment dirais-je, vis-à-vis de la langue nationale, nous appelons la langue nationale, au lieu de dire japonais, tout simplement. Et il y a une sorte de culte de la langue nationale, mais de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler pessimisme linguistique vis-à-vis de sa langue nationale, qui est très fort dans la mentalité japonaise. Donc, au début de Meiji, il y a le premier ministre de l'éducation nationale, qui s'appelle Mori Arinori, qui a proposé l'adoption de l'anglais comme langue nationale. Parce que avec le japonais, on peut pas se moderniser aussi rapidement. Le japonais n'est pas une langue très logique, cartésienne, etc. Donc il faut mieux adopter carrément l'anglais. Hein. Mais cette proposition a été rejetée, hein, parce que ça ne correspondait pas à la réalité des choses. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un grand écrivain, Shiga Naoya, qui a proposé d'adopter le français.
Adopter le français, carrément.
comme langue de culture complémentaire à la langue nationale japonaise.
Alors justement, le français, peut-être nous allons en reparler après une petite pause. Vous écoutez Éclairage, l'émission est préparée aujourd'hui en partenariat avec la FIPF, Fédération Internationale des Professeurs de Français, et nous parlons des langues et de l'enseignement des langues en Asie orientale avec Madame Bastide Brugger et Monsieur Miura.
Canal Académie.
Vous écoutez Éclairage, nous parlons aujourd'hui de l'enseignement des langues en Asie, avec Madame Bastide Brugger et Monsieur Miura. Alors, nous étions restés sur le développement des systèmes éducatifs au niveau de l'enseignement des langues, et peut-être avant même de parler d'enseignement des langues, est-il important pour chacun des pays de définir ce qu'est sa propre langue ? Un problème que vous évoquez, Madame Bastide Brugger, en disant qu'au niveau de la Chine, il est quelque peu difficile de dire qu'il y a une langue chinoise.
Oui, mais officiellement, ça ne fait aucun problème pour le gouvernement chinois, et pour la majorité des intellectuels chinois non plus, ça ne fait aucun problème. Il n'y a qu'une langue chinoise, et le culte de la langue est quelque chose d'extraordinairement fort, sans le moindre doute. Il y a eu des doutes sur la langue chinoise dans la première partie du XXe siècle, quand la Chine essayait de se moderniser, et que beaucoup d'intellectuels chinois, en voyant combien la diffusion de l'enseignement, la généralisation de l'enseignement était difficile, se disaient « c'est la faute de l'écriture chinoise et il faudrait transcrire le chinois en alphabet latin, comme l'a fait pour le vietnamien, par exemple ». Il y a eu plusieurs tentatives dans ce genre-là, plusieurs propositions par des très grands intellectuels. Et finalement, l'idée a été abandonnée. Le gouvernement communiste, dans les années 50, a mis en œuvre une simplification de l'écriture. À plusieurs reprises, il y a eu des simplifications successives, mais la difficulté, c'est qu'une fois que les gens avaient appris certains caractères simplifiés, et puis tout le reste en caractères compliqués, quand on leur créait des nouveaux caractères simplifiés, ils ne les comprenaient pas. Et donc, ils refusaient de les utiliser. Mmh. Et maintenant, le gouvernement a limité le nombre des caractères simplifiés. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on voit parmi les lettrés, les intellectuels chinois, les gens cultivés, le retour des caractères compliqués. Pourquoi ? Parce qu'à Taïwan, on n'a gardé que les caractères compliqués. À Singapour, la même chose, à Hong Kong, la même chose. Donc, pour se comprendre entre Chinois d'un endroit à l'autre, il faut les caractères compliqués. Et si on veut lire la littérature ancienne, les caractères simplifiés sont très équivoques parce qu'un seul caractère représente plusieurs caractères anciens, on ne comprend pas vraiment. Donc, il y a un retour en arrière actuellement.
Alors, pour le Japon, la difficulté, l'une peut-être des difficultés principales que vous soulignez, Monsieur Miura, c'est ce que vous appelez le double monolinguisme du Japon. Donc, double monolinguisme japonais et anglais qui est très présent et qui a quasiment remplacé le japonais à une certaine époque et qui, selon vous, présente un obstacle certain pour l'enseignement des langues.
Bon, donc pour vaincre ce pessimisme linguistique chez les Japonais, il y a un courant de pensée, disons, pour encourager les Japonais pour qu'ils aient un amour de la langue nationale. Donc il y a beaucoup de japonaises, oui. Et donc il y a une sorte de nationalisme linguistique chez les Japonais actuellement dans le contexte de mondialisation. Donc pour ne pas subir homogénéisation par la civilisation dominante anglo-saxonne, disons américaine, il y a cette résistance, cette tentative de résistance en revalorisant les valeurs de la langue japonaise. Mais de l'autre côté, il y a les tenants de l'ouverture et de l'internationalisation pour ne pas rater ce mouvement de mondialisation via l'apprentissage de japonais et qu'il faut intensifier au Japon. Donc, en introduisant l'enseignement de l'anglais dès l'école primaire. Il y a cette direction, cette orientation même de la part de l'éducation nationale. Alors, donc, il y a d'un côté revalorisation de la langue japonaise, mm-hmm. de l'autre, il y a engouement de... l'enseignement de l'anglais.
L'enseignement de l'anglais. Mmh. Alors, du coup, pour vous qui êtes président de la commission Asie-Pacifique au sein de la Fédération internationale des professeurs de français, vous êtes confronté à un double obstacle, si l'on prend en compte ce nationalisme.
Oui. Donc, pour nous, le français est essentiellement une langue de culture, une grande langue de culture, mais qui n'est pas utile dans notre vie quotidienne, même pas dans la vie professionnelle. Mmh. Et il y a peut-être 400 entreprises françaises implantées au Japon, mais qui n'embauchent pas des diplômés de français.
Mmh. Hein, on parle en anglais.
Oui, oui, c'est ça. Bon, donc, l'atout de la langue française, c'est que ce n'est pas une simple, ce n'est pas un simple moyen de communication. C'est une langue qui véhicule un certain message intellectuel et des valeurs civilisationnelles. Et un des messages les plus importants de la langue française et de la francophonie, c'est le respect de la diversité culturelle et linguistique. Donc, je fais valoir cet argument pour essayer de encourager l'enseignement et l'apprentissage du français au Japon et vis-à-vis de mes collègues asiatiques.
Madame Basile Bruguière, en Chine, quelle est la place de l'enseignement du français ?
Eh bien, il y a 90 millions d'élèves chinois dans les écoles secondaires qui apprennent des langues étrangères, mais sur ces 90 millions, il doit y en avoir peut-être 100, 200 000 au plus qui apprennent le français. Alors, à l'université, dans les sections littéraires, maintenant, on a imposé une deuxième langue. Et comme la première est évidemment l'anglais, il y a pas mal d'étudiants qui choisissent le français. Parce que c'est désintéressé, que le français ne rapporte rien, c'est pas lié à l'argent. C'est aussi un peu le respect de la diversité, mais la première idée, c'est que c'est complètement gratuit.
C'est complètement gratuit.
Oui. Et ça, c'est un certain charme dans la vie actuelle, parce que c'est une résistance. De même qu'au Japon, le français a toujours été une résistance à la culture dominante. En Chine, pas partout en Chine, mais enfin dans certains endroits, à Shanghai par exemple, c'est le cas. Ce que je voudrais dire, c'est que les Chinois n'ont pas du tout le pessimisme linguistique des Japonais. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que, je vous ai dit, la difficulté de l'écriture, qui est bien plus considérable qu'au Japon, puisqu'au Japon, il y a quand même une sorte d'alphabet, tandis qu'en Chine, il n'y en a pas du tout. Mais ce qui les a sauvés, c'est l'ordinateur. Parce que le problème, c'était tout dans l'imprimerie. Autrefois, il fallait recopier à la main. Les textes, on ne pouvait pas, c'était épouvantable. Il y a eu d'abord la photocopieuse et l'ordinateur. Et l'ordinateur a sauvé aussi les caractères compliqués chinois, parce que vous les faites très facilement avec l'ordinateur. Mmh. Et puis, maintenant, la Chine est riche et puissante, et elle a décidé qu'elle allait diffuser sa langue à l'extérieur. Et elle a une politique culturelle de diffusion de la langue chinoise, qui est extraordinaire. Actuellement, en Europe, elle crée des instituts Confucius, mmh. où on pourra apprendre gratuitement le chinois.
Alors, est-ce qu'il y en a
en France, un qui a été fondé déjà en Suède, il y en a un autre qui doit se fonder sous peu à Poitiers. et d'autres dans d'autres pays d'Europe. Et le gouvernement chinois met énormément d'argent pour diffuser la langue chinoise, pour concurrencer, pas dans les médias, mais dans un avenir, les Chinois voient loin, hein, peut-être, je ne sais pas combien d'années, l'anglais, en considérant que le chinois peut aussi bien que l'anglais être une langue internationale. Donc on est dans une conjoncture tout à fait différente.
De celle du Japon.
Mais même de ce qu'on imaginait il y a 30 ans. Et par rapport au Japon aussi. Mais il y a un entrisme chinois. Mais au Japon aussi, parce que les Japonais apprennent énormément le chinois maintenant. Et dans tout le sud-est asiatique aussi.
Est-ce que le pessimisme linguistique que vous évoquez, Monsieur Miura, à propos du Japon, fait qu'on n'a pas de politique aussi offensive pour la langue japonaise ?
Disons que, oui, tout d'abord, les Chinois tiennent beaucoup plus à la langue chinoise. Et il y a beaucoup de choses occidentales qui entrent dans le pays, en Chine, mais ils résistent au niveau de vocabulaire, en créant des nouveaux mots chaque fois qu'ils introduisent. Par exemple, ordinateur. Et chez nous, au Japon, on dit computer, même en japonais. Mais les Chinois écrivent l'ordinateur en deux caractères, n'est-ce pas ?
Oui,
c'est comme cerveau électronique. Hein. Ça, c'est très intelligent.
Un cerveau électrique.
Et donc, nous abandonnons les Japonais. Il y a cette tendance de faire valoir la richesse potentielle de néologisme en idéogramme chinois. Hein? Bon, donc ce pessimisme continue au Japon parce que au début de la modernisation du pays, les Japonais ont créé beaucoup de mots en idéogramme chinois qui ont été repris par les Chinois eux-mêmes. Hein? Donc le Japon était en avance vis-à-vis des Chinois dans les études occidentales. Hein? Et c'est pour ça que pas mal de futurs dirigeants ou intellectuels chinois sont venus au Japon pour leurs études au début du 20e siècle, comme Chiang Kai-shek ou même Xu Onlai. Hein.
Oui, mais même jusqu'en 1945, oui. Ils sont venus au Japon énormément.
Donc très grande influence du chinois et
mais
du japonais.
Mais aujourd'hui, au Japon, évidemment, la première langue étrangère étudier, c'est l'anglais. Deuxième place est disputée entre chinois et le français. Peut-être le français est dépassé par le chinois dans l'enseignement des langues à l'université. Donc, suivi de l'allemand et de russe loin derrière, de l'espagnol, etc.
Très bien. Nous touchons à la fin de notre émission, sujet passionnant sur lequel nous pourrions passer beaucoup de temps. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, nous parlions dans Éclairage de l'enseignement des langues et de la présence des langues dans l'Asie orientale. Avec vous, Madame Bastide de Bruguière, merci beaucoup. Et avec vous, Monsieur Miura, merci beaucoup.